Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 1, scène 5. Bennigsen descendit la grande route vers le pont que l'officier avait indiqué à Pierre comme étant le centre de notre position et dont le foin, fauché des deux côtés de la rivière, embaumait les abords. Après le pont, ils traversèrent le village de Borodino. De là, prenant sur la gauche, ils dépassèrent une masse énorme de soldats et de fourgons d'artillerie et se trouvèrent en vue d'un haut mamelon sur lequel les miliciens exécutaient des travaux de terrassement. C'était la redoute qui devait recevoir, plus tard, le nom de Raïevski ou la batterie du mamelon. Pierre n'y fit que peu d'attention. Il ne pouvait se douter que cet endroit deviendrait le point le plus mémorable du champ de bataille de Borodino. Ils franchirent ensuite le ravin qui les séparait de Séminovski. Les soldats emportaient les dernières poutres des isbas et des granges. Puis, montant et descendant tour à tour, ils traversèrent un champ de seigle, foulés et roulés comme par la grêle, et suivirent la nouvelle route frayée par l'artillerie au milieu des sillons d'un champ labouré pour atteindre les ouvrages avancés auxquels on travaillait encore. Bennigsen s'y arrêta et jeta les yeux sur la redoute de Chevardino, qui hier encore était à nous, et sur laquelle on voyait se dessiner quelques cavaliers que les officiers prétendaient être Napoléon ou Murat, avec leur suite. Pierre cherchait, comme eux, à deviner lequel pouvait être Napoléon. Quelques instants plus tard, ce groupe descendit de la hauteur et disparut dans le lointain. Bennigsen, s'adressant à un des généraux présents, lui expliqua à haute voix quelle était la position de nos troupes. Pierre faisait son possible pour se rendre compte des combinaisons qui motivaient cette bataille, mais il sentait, à son grand chagrin, que son intelligence n'allait pas jusque-là et qu'il ne comprenait rien. Bennigsen, remarquant son attention, lui dit tout à coup
« Cela ne peut, il me semble, vous intéresser. Au contraire !»
reprit Pierre. Laissant les ouvrages avancer derrière eux, ils s'engagèrent sur la route qui, en s'éloignant vers la gauche, traversait, en formant des courbes, un bois de bouleaux serré mais peu élevé. Au milieu de la forêt, un lièvre, au pelage brun et aux pattes blanches, sauta tout à coup sur le chemin et se mit à courir longtemps devant eux, en excitant une hilarité générale, jusqu'au moment où, effrayé par le bruit des chevaux et des voix, il se jeta dans un fourré voisin. Deux verstes plus loin, ils débouchèrent dans une clairière. Là se trouvaient des soldats du corps de Touchkov, qui étaient chargés de défendre le flanc gauche. Arrivé à son extrême limite, Pierre vit Bennigsen parler avec chaleur et supposa qu'il venait de prendre une disposition des plus importantes. En avant des troupes de Touchkov, il y avait une éminence qui n'était pas occupée par nos troupes, et Bennigsen critiqua hautement cette faute en disant qu'il était absurde de laisser ainsi, sans le garnir, un point aussi élevé et de se contenter de mettre des troupes dans le bas. Quelques généraux partagèrent son avis. L'un d'eux, entre autres, soutint, avec une énergie toute militaire, qu'on les exposait par là à une mort certaine. Bennigsen ordonna en son nom de faire placer des forces sur la hauteur. Cette disposition qu'on venait de prendre au flanc gauche fit encore mieux sentir à Pierre son incapacité à comprendre les questions stratégiques. En écoutant Bennigsen et les généraux qui discutaient la question, il leur donnait raison et s'étonnait d'autant plus de la faute grossière qui avait été commise. Bennigsen, ignorant que ses troupes avaient été placées là, non, comme il le croyait, pour défendre la position, mais pour y rester caché et tomber à l'improviste sur l'ennemi à un moment donné, changea ses dispositions sans en prévenir le commandant en chef.